les forces de surface et même la marine en général, ça reste quand même une armée assez technique. On est quand même là pour mettre en œuvre des équipements, la plupart du temps, qui sont lourds. Des bateaux, des avions, des hélicoptères, des sous-marins. Mais chez les commandos, ils ont leurs équivalents aussi. Ils ont du matériel à mettre en œuvre qui est de plus en plus complexe. Et les conflits de demain font qu'il faut maîtriser parfaitement le matériel pour en tirer le maximum. Parce que c'est cette différence-là entre une utilisation basique et une utilisation optimisée qui fera qu'on peut espérer gagner ou qu'on ne va pas gagner, quoi.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Dans ce nouvel épisode de notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022, nous allons nous entretenir avec l'autre pacha de la mission, celui de la frégate Le Courbet, le capitaine de frégate Florian El Haddad. Avec lui, nous allons parler de la vie à bord de navire et des différentes missions de l'équipage. Nous souhaitons bonne écoute. Bonjour commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, oui, je m'appelle Florian, j'ai 42 ans, je suis dans la marine depuis bientôt 20 ans, et donc je suis le commandant de la frégate Courbet.
D'accord. Avant de parler de votre mission ici, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Comment vous en êtes arrivé à commander un navire de combat ?
D'accord, mais je suis rentré dans la marine en 2004, après des études d'ingénieur, et ensuite j'ai suivi un parcours, peut-être pas tout à fait classique, parce que j'ai parcouru diverses forces organiques et diverses spécialités, mais enfin j'ai eu une carrière embarquée sur des bateaux de surface, sur des sous-marins, avant de commander une première fois un chasseur de mines il y a quelques années, et enfin une frégate Lafayette depuis un an et demi.
D'accord. C'est quoi votre mission aujourd'hui sur cette frégate ?
Alors cette année, donc, le Courbet participe à la mission Jeanne d'Arc 2022 en tant qu'escorteur du porte-hélicoptère amphibie Mistral. Donc dans ce contexte-là, la mission de la frégate Lafayette est toujours la même. Il s'agit donc d'escorter le porte-hélicoptère en apportant des capacités complémentaires à celles du porte-hélicoptère amphibie, notamment en matière d'autodéfense. Et puis c'est de participer aux activités de formation des officiers élèves en tant que deuxième unité dans le groupe, ce qui permet d'avoir des activités à deux bateaux qu'on ne peut pas faire tout seul.
J'imagine que manœuvrer, pour un élève officier, d'avoir deux bateaux sur une seule manœuvre, c'est intéressant pour manœuvrer ensemble.
Oui, exactement. Donc ça permet de leur faire faire des manœuvres de groupe où ils peuvent travailler leur perception de la position relative des bateaux l'un par rapport à l'autre. Ça leur permet de travailler leur sens marin, leur perception des mouvements relatifs, de mieux appréhender les contraintes de la plateforme, de l'appareil à gouverner pour pouvoir conduire des manœuvres d'un bâtiment par rapport à un autre, ce qu'on ne pourrait pas faire s'il y avait un seul bateau.
Vous, à titre personnel, vous êtes passé par l'école navale, vous avez été à la place des jeunes élèves officiers que vous avez, là, pour le coup, depuis 5 mois sous vos ordres. Comment ça s'est passé, votre mission Jeanne d'Arc, et qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement pour maintenant en tant que commandant ?
Alors, effectivement, moi, j'ai aussi fait la campagne d'application des officiers de marine sur la Jeanne d'Arc. À l'époque, c'était le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc qui servait de bâtiment base, accompagné par la frégate anti-sous-marine Georges Legge. Donc je m'en souviens relativement bien, malgré le temps qui passe. Donc je me souviens surtout des nombreuses heures de quart, des nombreux TP aux centrales opérations, des manœuvres réalisées avec les deux bâtiments, que j'ai encore en tête de façon très nette aujourd'hui, quand je fais, pendant la campagne Jeanne d'Arc en particulier, quand je refais ces mêmes manœuvres, désormais commandant de l'escorteur. Donc c'est hyper important pour eux, cette campagne d'application. Ça va leur donner des bases dans tout un ensemble de domaines et ça va leur donner un socle qu'ils n'oublieront probablement jamais et qui va constituer le point de départ de leur carrière dans la marine.
Peu importe leur spécialité à ces élèves officiers, parce qu'on a vu dans d'autres épisodes qu'il y a des gens qui vont se destiner à être sur des bâtiments de surface, d'autres dans des sous-marins, d'autres même dans des avions de chasse. Ce socle commun, il est important pour vraiment appréhender tout ça.
Oui, il est important parce que quelles que soient les unités sur lesquelles ils vont aller servir ensuite, il y a quand même un point commun qui est évidemment la mer et la navigation en mer. Et alors, les commandos vont agir depuis la mer, souvent depuis des embarcations de la marine ou des bâtiments de la marine. Les sous-marins sont en mer, même s'ils sont sous l'eau. Les équipes de l'aéronautique navale évoluent au-dessus de la mer, donc pour toutes ces spécialités, c'est important qu'ils aient manœuvré d'abord, navigué sur des bateaux de surface, pour bien comprendre les contraintes du milieu. Et puis ensuite, même dans les autres forces organiques, donc les sous-marins, les commandos ou même l'aéronautique navale, pour les officiers, le parcours de carrière se termine très souvent en surface malgré tout. Et donc c'est important qu'ils aient quand même connu les forces de surface en tout début de carrière, parce qu'ils finiront par y revenir probablement un jour ou l'autre.
Vous, quand vous étiez élève officier, vous imaginiez déjà pacha d'une frégate comme celle-ci?
Je pense que c'est une forme d'aboutissement auquel on pense, qu'on envisage, mais de là à dire que j'imaginais que ça se réaliserait, ce serait très prétentieux.
Et, vous êtes passé par des déploiements en sous-marin nucléaire d'attaque. Comment on passe de l'univers du sous-marin à l'univers de la frégate?
Alors, plutôt bien, parce que même si ce sont des mobiles extrêmement différents, il y a quand même un socle de valeurs tout à fait communes. Et donc on retrouve des fondamentaux pour ce qui concerne la navigation, l'évolution dans le milieu maritime, qui ne sont pas si différents que ça. Dans le fonctionnement interne des unités, il y a également plein de points communs. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais il y a plein de points communs. Donc, de passer de sous-marin à une frégate, évidemment, c'est un changement. Mais de toute façon, même quand vous êtes affecté sur les forces de surface, vous passez sans arrêt d'un bateau à l'autre. Et de la même façon, il y a des choses qui sont communes, des choses qui sont différentes. Et c'est notre travail de nous adapter aux bateaux sur lesquels on passe d'affectation en affectation.
Cette capacité d'adaptation, vous l'avez depuis l'école navale ou même avant, quand vous étiez à Polytechnique, ou c'est venu comment, selon vous?
Alors, je ne saurais pas vous dire depuis quand je l'ai, mais surtout, je ne sais pas vous dire si j'ai une capacité d'adaptation particulière. Je pense que tous les officiers de marine, en général, ont cette capacité d'adaptation, tout simplement parce que c'est le cœur même du travail, c'est de s'adapter en permanence aux conditions qui changent. Donc les affectations tous les 2 ans sont des conditions qui changent pour l'officier de marine dans sa carrière, mais c'est normal de s'adapter.
J'imagine que vous vous appuyez, comme dans tout corps d'armée, beaucoup sur vos subordonnés, sur les gens qui sont l'équipage du bateau. Mais vous devez quand même montrer que vous connaissez votre dossier et puis votre embarcation.
Oui, c'est vrai. Alors évidemment, je peux pas. Enfin, le commandant tout seul, il peut rien faire, hein, il a besoin de son équipage. Et donc effectivement, on a une structure d'équipage qui est organisée pour garantir qu'on ait la maîtrise technique des installations, qu'on ait les meilleurs conseillers possibles en matière de conduite des opérations, en matière de logistique, en matière de préservation du patrimoine. Mais effectivement, le commandant en général finit par avoir une vision très transverse de son bateau, plus ou moins dans le détail sur certains sujets. Mais qui lui permet effectivement d'avoir une vision d'ensemble du bateau et de l'activité.
Dans votre biographie, j'ai lu que vous avez été déployé sur chasseur de mines.
Oui.
En quoi ça consiste et c'est quel type de bâtiment et qu'est-ce qu'on y fait dessus?
D'accord, donc effectivement, ouais, j'ai commandé le chasseur de mines Eridan, donc qui est désarmé aujourd'hui, parce que ce sont des bâtiments qui commencent à devenir un peu anciens. Donc les chasseurs de mines sont des bâtiments qui contribuent donc à la guerre contre les mines. En quoi ça consiste? Alors déjà, ce que le grand public sait assez peu, c'est que les côtes françaises, notamment en Manche, mer du Nord, sont encore jonchées de mines, bombes et autres explosifs qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc les chasseurs de mines et les groupes de plongeurs des mineurs, en permanence, interviennent sur des objets de ce type pour les rendre inoffensifs pour la navigation commerciale ou pour la pêche. Chaque année, vous avez au moins 2000 objets qui sont neutralisés sur les côtes françaises, que ce soit Manche-Mer du Nord, côte atlantique, et parfois même en Méditerranée, même si c'est un peu moins dense que sur les autres approches. Et donc les chasseurs de mines sont des bateaux qui ont été conçus spécifiquement pour cette tâche-là, dans les années 80. Donc ce sont plutôt des petits bateaux, à peu près 700 tonnes de déplacement, donc ça représente plutôt les petits bateaux de la marine. Ils sont équipés avec un système de propulsion spécifique qui leur permet de tenir une position fixe ou d'évoluer à très petite vitesse. Ils sont équipés avec un sonar de coque qui leur permet d'explorer le fond et de détecter tous les objets qui affleurent au-dessus de la surface du fond. Ils sont entièrement conçus pour tous les composants qui le permettent avec des matériaux non magnétiques pour présenter une signature magnétique et électrique la plus faible possible pour minimiser le risque de déclencher une mine par leur simple approche. Et ils mettent en œuvre des groupes de plongeurs démineurs ou des petits sous-marins téléguidés pour aller identifier les objets qui sont au fond et, si nécessaire, les contre-miner avec des charges explosives pour les rendre non dangereux pour le reste de la circulation maritime. Et les groupes de plongeurs démineurs, en outre, interviennent sur l'estran, c'est-à-dire toute la côte, avec tout simplement des camions et des embarcations pneumatiques pour aller neutraliser les objets qui sont détectés, par exemple, tout simplement par des plaisanciers ou même des vacanciers. Hein. Tous les ans, vous avez des vacanciers qui détectent des bombes qui affleurent au gré des marées. Et donc, les groupes de plongeurs démineurs interviennent sur ces cas-là.
Donc, on est actuellement sur une frégate. C'est quoi les missions de cette frégate en dehors de la mission Jeanne d'Arc le reste de l'année ?
Donc, les frégates Lafayette sont un petit peu les couteaux suisses de la marine. Elles sont capables de remplir tout un éventail de missions diverses et variées. Très souvent, ces frégates sont utilisées seules pour soit des opérations de renseignement, donc tout simplement pour aller établir la situation aéromaritime dans une zone, vérifier ce qui se passe en Méditerranée orientale ou bien dans le nord de l'océan Indien, par exemple. Et ensuite, les frégates sont capables d'exercer des missions de lutte contre le narcotrafic, de lutte contre la piraterie, éventuellement d'évacuation de ressortissants ou de visite sur un bâtiment suspecté d'un trafic quelconque. Donc ce sont des frégates dites de deuxième rang, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas des capacités à la hauteur des frégates dites de premier rang. Elles sont capables de faire plein de choses, mais avec des moyens relativement limités. Donc on est capable de faire de la lutte anti-navire, de la lutte anti-aérienne, de la lutte anti-sous-marine puisqu'on est équipé d'un sonar, mais tous nos équipements sont d'un niveau de performance qui n'est pas tout à fait comparable à celui des frégates de premier rang, ce qui justifie cette différence de positionnement. Et donc les frégates Lafayette aujourd'hui sont plutôt utilisées pour les zones de crise, les zones de conflit de haute intensité étant a priori plutôt réservées aux frégates de premier rang.
Quand on parlait de ces frégates-là, c'est les frégates spécialisées anti-aériennes, anti...
Oui, donc les frégates de premier rang, pour le coup, ce sont nos frégates de défense aérienne et nos frégates multimissions qui sont respectivement spécialisées en défense aérienne et en lutte sous la mer, mais qui sont toutes capables de remplir des missions dans tous les domaines de lutte avec un niveau de performance qui est incomparable avec celui d'une frégate Lafayette.
D'accord. C'est des navires qui sont beaucoup plus gros aussi que les Lafayette ou pas ?
Alors, ce sont des navires qui sont significativement plus gros. Alors, pour comparer les bateaux, on parle souvent de leur déplacement, donc en gros de leur poids. Donc, une frégate Lafayette, ça pèse à peu près 4000 tonnes. Ça déplace 4000 tonnes, on dit. Une Frem, ça déplace 6000 tonnes. Et une FDA, ça déplace 7000 tonnes. Donc, mais après, si vous les regardez physiquement... Il n'y a pas une différence flagrante à l'œil entre les trois types de bâtiments. Enfin, elles sont d'une classe de taille à peu près comparable, mais simplement les deux autres frégates sont plus grosses, quoi. Ouais. Et ont plus d'équipement, plus performants.
Revenons un peu sur cette particularité que vous avez, ou peut-être que ce n'est pas forcément une particularité, d'être passé par d'avoir été spécialiste de la lutte anti-sous-marine, enfin sous la mer, pour ensuite basculer sur un bâtiment de surface. C'est quelque chose qui se fait, vous avez dit que c'est un peu l'aboutissement des officiers, mais est-ce que les passerelles se font facilement entre les deux univers ?
Alors les passerelles se font relativement facilement, oui. En particulier, alors d'abord les sous-mariniers ont vocation à revenir en surface pour exercer le commandement de leur premier commandement à la mer se fait en surface sur des commandements de premier niveau comme pour les autres officiers de marine qui sont en surface parce qu'on considère que les sous-marins nucléaires d'attaque sont des commandements déjà de deuxième niveau pour lesquels il faut avoir exercé un commandement à la mer avant. Donc déjà naturellement les sous-mariniers de la branche des opérations qui ont vocation à commander ensuite leur sous-marin vont repasser en surface pour commander un bâtiment de surface. Donc ça, c'est assez classique. Et ensuite, au-delà de ce parcours-là, oui, il y a des passerelles. Il est possible de revenir des forces sous-marines vers les forces de surface. Il est plus rare de repartir des forces de surface pour aller dans les forces sous-marines, mais ça peut arriver. Par exemple, pour aller servir sur sous-marin nucléaire lanceur d'engins, pour lesquels les commandants adjoints opération peuvent tout à fait venir des forces de surface et ne pas être spécialisés en sous-marin.
D'accord. Et vous, à titre personnel, vous pourriez prendre le commandant d'un sous-marin ?
Non, pour le coup, ça, c'est plus possible. Le parcours des commandants de sous-marins donc, est relativement normé. Donc, il y a d'abord un premier commandement en surface sur un petit bateau, c'est normal, et ensuite, il faut suivre une succession, un parcours professionnel qualifiant dans la branche sous-marine, avoir occupé successivement sur sous-marin nucléaire d'attaque tous les postes jusqu'à commandant en second avant de pouvoir prétendre à commander un SNA. Et ensuite, les commandants de SNA ont vocation à aller sur SNLE pour y occuper les fonctions de commandant en second puis de commandant. Donc moi, je suis trop vieux maintenant pour faire tout ça. J'ai quitté les forces sous-marines il y a longtemps. Voilà, j'ai commandé une première fois en surface. Là, c'est mon deuxième commandement en surface. Je ne peux pas retourner chez les sous-mariniers aujourd'hui. Ma vocation, c'est de rester en surface.
D'accord. C'est un univers qui vous manque ou pas, d'être dans un sous-marin ?
Non, ça ne me manque pas. Je suis très content d'y être passé. C'était très instructif. C'est très utile, même si je suis en surface maintenant, de savoir un tout petit peu ce qui se passe en dessous, comment ça fonctionne, les contraintes que le sous-marin rencontre. Comment, en tout cas, nos sous-marins conduisent leurs opérations, comment ils élaborent la situation autour d'eux, quels sont les facteurs qu'ils vont prendre en compte pour choisir la manœuvre qu'ils vont conduire. C'est utile parce que du coup, sur un bâtiment qui est doté de capacités ASM, ça permet d'essayer un tout petit peu de se projeter dans la peau de l'adversaire pour construire une manœuvre qui soit la plus intelligente possible. Mais je suis très content d'être de retour dans les forces de surface. Ça s'est fait à ma demande à l'époque et je suis content d'être là.
C'est quoi les conseils que vous donnez le plus aux élèves officiers de cette mission Jeanne d'Arc qui viennent vous solliciter pour discuter ou quand vous avez l'occasion de vous adresser à eux ?
Je leur conseille... c'est pas facile de vous donner un seul conseil parce qu'il y en a quand même beaucoup des conseils à donner aux jeunes.
On peut en donner plusieurs.
On peut en donner plusieurs. D'abord, c'est de bien prendre leur poste de chef. C'est-à-dire de savoir s'appuyer sur leurs équipes et leurs adjoints. On les met à la tête d'équipes qui ont de l'expérience, peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Chacun dans son poste sait très bien faire son travail. Et en fait, ils ont souvent autour d'eux des gens qui peuvent répondre à leurs questions très simplement. Il suffit qu'ils pensent à les solliciter. Donc on n'attend pas d'eux qu'ils sachent tout de suite. Mais par contre, on attend d'eux qu'à la fin de cette campagne, ils sachent se positionner en chef d'équipe. Et en particulier, ça veut dire qu'ils doivent savoir s'appuyer sur leurs adjoints pour obtenir les réponses aux questions qu'ils vont se poser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je leur conseille, en tout particulièrement, c'est de faire l'effort de se plonger dans la documentation pour apprendre, dans tous les domaines qu'on leur demande d'apprendre, les règles de fonctionnement de tout un ensemble de choses. Alors, c'est évidemment la documentation technique pour qu'ils apprennent comment fonctionnent les installations et le bateau en général. Mais c'est le reste aussi, la documentation qui régit la conduite des opérations, la documentation qui régit les règles de gestion de leurs marins, etc., etc.
De l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'on le voit aussi de l'intérieur, on a l'impression qu'il y a énormément de connaissances à accumuler entre le mode d'emploi d'un navire, l'armement, mais aussi la partie RH, gérer un équipage, faire du management, du commandement. Comment on fait pour pas se sentir noyé justement sous toutes ces informations quand on est jeune officier d'une vingtaine d'années ?
Eh ben, d'abord il faut prioriser. On ne demande pas aux jeunes officiers de maîtriser l'ensemble de tout ce corpus effectivement, donc qui se traduit par une documentation abondante immédiatement. Mais les jeunes officiers qui arrivent, on les met d'abord à la tête d'un service dans lequel ils sont responsables de quelques équipements. Donc ils doivent d'abord s'occuper de ces équipements-là. Donc ça limite quand même largement le spectre des choses qu'ils ont à étudier. Et on leur demande de prendre des fonctions en conduite à un niveau qui est relativement simple. La progression est quand même relativement progressive. La marche à franchir, elle est quand même limitée au début. Et on leur demande surtout de s'impliquer dans un travail de fond qui va leur permettre progressivement au fil des premières affectations de pouvoir élargir les domaines qu'ils vont étudier plus ou moins dans le détail.
C'est-à-dire que tout au long de la carrière, il y a une phase d'apprentissage en continu qui est assez
oui.
riche, quoi.
Oui, l'apprentissage est permanent. Enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une affectation à la suivante, tous les 2 ans en moyenne, ben, vous changez très souvent de type de bateau, vous changez éventuellement de théâtre, de déploiement, vous changez de type de mission. Et puis ensuite, quand les années passent, vous allez changer complètement de poste, être affecté à terre dans des états-majors qui eux-mêmes vont traiter de sujets très variés, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec les forces de surface. Donc, dans une carrière de militaire en général, d'officier, que ce soit dans la marine ou dans les autres armées, l'adaptation est permanente. Tous les 2 ans, il faut se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qu'on a fait avant, puisque tout ce qu'on a fait avant sert de socle sur lequel on vient bâtir la suite. Mais très clairement, il faut s'adapter en permanence à l'affectation suivante, réapprendre. Les choses changent en plus, même d'une affectation à la suivante. Et donc, sans arrêt, il faut réapprendre.
Sur ce navire où j'ai eu le plaisir d'avoir une visite guidée avec vous et vous m'avez expliqué un peu les grands changements qu'il y a eu dernièrement lors de l'amélioration de cette frégate et j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre justement sur les types d'armement, sur la modification en termes logistiques, en termes pour le centre de commandement avec les écrans, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui vous passionne, la partie matérielle du bâtiment?
Oui, alors moi, à titre personnel, oui, j'aime beaucoup ça. J'ai une appétence assez forte, effectivement, pour la technique. Mais je ne suis pas certain d'être une exception dans le domaine, parce que de toute façon, les forces de surface, et même la marine en général, ça reste quand même une armée assez technique. On est quand même là pour mettre en œuvre des équipements, la plupart du temps, qui sont lourds. Des bateaux, des avions, des hélicoptères, des sous-marins, mais chez les commandos, ils ont leurs équivalents aussi. Ils ont du matériel à mettre en œuvre qui est de plus en plus complexe. Et les conflits de demain font qu'il faut maîtriser parfaitement le matériel pour en tirer le maximum, parce que c'est cette différence-là entre une utilisation basique et une utilisation optimisée qui fera qu'on peut espérer gagner ou qu'on ne va pas gagner, quoi. Donc, il faut absolument qu'on optimise la maîtrise technico-opérationnelle de nos équipements, éventuellement qu'on la fasse progresser, cette maîtrise technico-opérationnelle, éventuellement qu'on ait des idées pour encore améliorer les performances de nos matériels. Il y a de la marge de progression dans certains domaines, même de façon autonome à bord des bateaux. Voilà, et ça, c'est quand même, enfin, c'est fondamental pour une armée technique comme la marine de continuer sans cesse à explorer les capacités technico-opérationnelles et éventuellement les faire progresser.
Ça veut dire que pour être un bon marin, c'est plus une question de matière grise, peut-être de réflexion que de muscles et que de maniement d'armes? Ou pas forcément?
C'est probablement assez vrai, parce que dans la marine, comme dans les autres milieux, je pense, l'affrontement se conduit de plus en plus loin, avec des systèmes d'armes de plus en plus complexes. Et donc le corps à corps est quand même de moins en moins fréquent. Donc le muscle, il devient très important dans le corps à corps. Avant qu'on en arrive au corps à corps, il va falloir exploiter tous les senseurs du bateau, le renseignement, et puis éventuellement conduire le combat avec les missiles qui portent à des dizaines de kilomètres. En ayant positionné le bateau le plus intelligemment possible pour ne pas être contre-détecté et être le premier à se faire tirer dessus. Donc, avant d'en arriver au corps à corps et de devoir mettre en œuvre des armes traditionnelles, d'artillerie classique ou d'armes légères d'infanterie, il se sera passé quand même un certain nombre d'étapes dans le combat naval. Néanmoins, il y a quand même un moment où, en particulier dans un scénario défavorable où on viendrait à être touché par une arme adverse, il y a quand même un moment où c'est un peu l'homme contre la ferraille, quoi. Et à bord du bateau en feu, à bord du bateau avec une voie d'eau, il y a quand même un moment où il va falloir mouiller le maillot et il faut que les marins soient en forme pour être en mesure de remplir ce dernier challenge si jamais il se présente à eux un de ces jours.
Oui, juste avant d'enregistrer cet entretien, on a pu observer vous avez mené un exercice d'incendie à bord.
Oui.
Et l'une de vos marins me disait que ici, en fait, le vrai danger, du coup, c'est pas l'eau, c'est le feu. Et je
Oui.
trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Mais tant quand on évolue dans les coursives qui sont très restreintes, on comprend qu'avoir un départ de feu, de la fumée, ça peut être très vite critique. Comment vous organisez pour ça, justement, pour ce risque-là ?
D'accord. Alors effectivement, d'une façon générale, sur les bâtiments, enfin sur les bateaux d'ailleurs, parce que ça touche pas que les bateaux militaires, hein, les bateaux civils c'est pareil. Le principal danger, effectivement, c'est plutôt le feu. Alors comment on s'organise ? Eh bien, d'abord le bateau est équipé hein, pour détecter les départs de feu. Donc on a des centaines de détecteurs incendie répartis partout dans le bateau. Le bateau est équipé avec des installations d'extinction fixes dans les locaux qui sont les plus sensibles. Donc on a des moyens de diffuser de l'eau depuis le plafond, on a des moyens de générer de la mousse depuis les parquets dans les locaux machines et auxiliaires, on a des systèmes qui permettent d'éteindre le feu avec des gaz inertes dans les locaux machines pour pouvoir étouffer immédiatement un départ de feu dans ces locaux-là. On a des surveillances de température dans toutes les soutes à munitions qui sont elles aussi équipées avec des systèmes d'extinction qui permettraient de noyer la soute si jamais il y avait une augmentation de la température pouvant porter atteinte à l'intégrité des munitions et qui pourrait ensuite les faire exploser. Voilà. Et puis ensuite, au-delà de cet équipement du bateau qui est standard hein, sur tous les bâtiments, pour le coup civils aussi, hein, qui sont équipés avec des systèmes du même ordre, l'équipage est organisé pour pouvoir conduire la lutte contre un incendie. Donc à bord, j'ai un certain nombre de personnes dont la spécialité, c'est d'être des pompiers. Mais tous les marins de l'équipage sont aussi capables d'intervenir contre un feu en revêtant la tenue de protection contre l'incendie, des appareils respiratoires, et ensuite en allant au contact du feu, en mettant en œuvre des lances à incendie ou d'autres matériels mobiles, par exemple des systèmes de génération de mousse qui permettent de remplir un local depuis un panneau supérieur pour étouffer le feu complètement.
Tous les marins à bord sont pompiers aussi du coup?
Tous les marins à bord sont capables de prendre des fonctions de pompiers si nécessaire, oui. Donc les premiers à intervenir, ce sont les spécialistes du domaine. Mais en réalité, lorsque vous luttez contre un incendie dans un bateau, il fait très chaud, il fait très noir, c'est très éprouvant. Et donc en fait, un pompier dans un bateau, il ne peut pas conduire la lutte plus d'une vingtaine de minutes avant de devoir être relevé. Et donc pour pouvoir relever les spécialistes du domaine, il faut que tous les marins soient capables de prendre la suite. Donc de mettre les tenues de protection contre l'incendie, de mettre les appareils respiratoires et puis de reprendre la lutte là où elle a été laissée par le prédécesseur, où que ce soit et quand que ce soit.
D'accord. Ça veut dire que cet équipage, il est vraiment multicasquette à tous les niveaux. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre maître d'armes. On a partagé son poste.
Oui.
Et il m'a fait la liste de tout ce qu'il faisait à bord. Et c'est assez impressionnant de voir qu'il fait à la fois de la chancellerie, un peu le rôle de major de camp pour un terrien, de discipline, de maître de tir, coach sportif un petit peu. Ça, c'est une norme sur les bateaux de la marine.
Oui,
tout le monde doit savoir faire plusieurs choses.
Sur les bateaux de la marine, c'est très classique. Tous les marins ont plusieurs casquettes, comme on dit. Bon, déjà, ils sont tous pompiers, même si par ailleurs, ils sont cuisiniers, ils sont détecteurs, ils sont mécaniciens. Voilà, ils sont déjà tous pompiers. Et ensuite, en fonction de leur qualification à titre personnel ou en fonction des nécessités du moment, on les forme à occuper d'autres emplois. Alors certains en ont deux, certains en ont trois, certains en ont quatre, ça dépend. Mais effectivement, tous les marins sont multicasquettes et tous les marins sont capables de faire plein de choses en fonction des nécessités du moment.
Du coup, ces gens-là doivent être grassement payés, non ? S'il y a plusieurs postes ?
Non, les marins ne sont pas plus payés en fonction du nombre de fonctions qu'ils occupent à bord. Ça ne marche pas comme ça.
Certains occupent aussi le poste de... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un poste, mais interviennent dans le cadre des équipes de visite.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous présenter cette particularité ?
Oui. Donc, tous les bateaux de la marine disposent d'une équipe de visite, alors qui est plus ou moins grosse en fonction de la taille du bateau, bien sûr. Mais cette équipe de visite a vocation à être déployée soit sur des bâtiments rencontrés à la mer, à l'encontre desquels on pourrait avoir des soupçons de légitimité, pour réaliser une enquête de pavillon et puis éventuellement aller plus loin si jamais il y a des doutes sur du narcotrafic, des doutes sur de la pêche illicite, enfin ce genre de choses. Donc ces équipes-là, elles sont composées des membres de l'équipage qui s'entraînent du coup ensemble à conduire ce genre d'intervention sur un bâtiment extérieur. L'ambition, c'est de pouvoir conduire ce genre d'intervention de façon autonome sans avoir besoin de renforts particularisés qui viendraient de l'extérieur. Mais du coup, comme ces gens ne sont pas non plus des spécialistes de ce genre d'action, on les cantonne à des actions relativement simples dans lesquelles on est à peu près certain qu'il ne va pas y avoir de résistance armée de la part du bâtiment sur lequel on les envoie. Sachant que si on intervient sur un bâtiment où on sait qu'il va y avoir une résistance armée, ça relève plutôt des forces spéciales et donc pour ce qui nous concerne des commandos marines. Cette équipe de visite est aussi susceptible d'être déployée à terre, par exemple pour sécuriser un dispositif qui serait mis en place sur une plage ou dans un port pour procéder à l'évacuation de ressortissants, par exemple dans un pays en trouble ou en guerre. Au sein duquel on voudrait récupérer les ressortissants français ou européens, on a besoin d'un premier cordon de sécurisation du point d'embarquement et donc c'est l'équipe de visite, la brigade de protection du bâtiment qui serait chargée de faire ça.
Donc là on parle de membres d'équipage qui peuvent être très bien ce fameux maître d'armes mais aussi le boulanger.
Absolument. Donc aujourd'hui dans l'équipe de visite du Courbet, vous avez effectivement le capitaine d'armes, vous avez au moins un cuisinier, vous avez des mécaniciens, vous avez le moniteur de sport. Voilà. Et ils sont sélectionnés sur volontariat en général au sein de l'équipage. Il y a d'ailleurs un intérêt à ce qu'on les sélectionne parmi les différentes spécialités du bord, puisque en général, quand vous êtes déployé sur un autre bâtiment, c'est pas rare que ce bâtiment rencontre des difficultés techniques. Et en fait, les équipes de visite peuvent éventuellement résoudre un problème technique sur le bâtiment sur lequel elles sont déployées, ne serait-ce que pour permettre à la visite de se dérouler normalement. Donc il y a un intérêt à ce que les gens de l'équipe de visite soient pris parmi les différentes spécialités du bord pour pouvoir avoir un maximum de compétences déployées sur le bâtiment d'en face.
Ces membres de cette équipe de visite, ils sont volontaires pour quelle raison ? C'est pour rompre un peu la monotonie de la mission, pour faire d'autres choses en plus ?
Oui, il faudrait leur demander. Je pense que les motivations sont multiples. Mais effectivement, l'équipe de visite, finalement, elle conduit les principales actions du bâtiment déployées à l'extérieur du bâtiment. Donc, il y a un caractère un peu exceptionnel à participer aux activités de l'équipe de visite. Du coup, pour certains, ça leur plaît de pouvoir s'entraîner davantage aux techniques d'autodéfense ou de combat rapprochés, au corps à corps, à la manipulation des armes. Voilà, c'est tout ça, c'est un peu l'aventure, je pense, l'aventure dans l'aventure qui les attire dans cette fonction-là. Ouais.
Quand on arrive au terme de son engagement en tant que marin et qu'on a accumulé autant d'expérience que ça, j'imagine que ça ne doit pas être très compliqué de trouver un poste dans le civil ou avoir une deuxième partie de carrière. Est-ce que vous avez des retours sur ça ou de votre côté ?
Ah oui, alors c'est tout à fait classique pour les marins de se reconvertir dans le civil, mais pour les marins comme pour les autres militaires. Hein, les militaires, d'une façon générale, en tout cas pour ce qui concerne les hommes du rang, quartier maîtres et matelots, et pour les sous-officiers et les officiers mariniers chez nous, ont des carrières relativement courtes. Ça fait partie du modèle de notre armée qui consiste à essayer de préserver une moyenne d'âge relativement basse pour avoir des gens aptes au combat de haute intensité. Et le corollaire de cet objectif-là, c'est qu'on a un flux de marins ou de militaires en général important, on en recrute beaucoup et on en a beaucoup qui partent dans le civil tous les ans. Et du coup, effectivement, en s'agissant des marins, je pense qu'ils arrivent assez facilement à valoriser leur expérience dans la marine pour ensuite trouver une deuxième carrière, parce que tous nos marins ont développé au cours de leur passage dans la marine des spécialités et des compétences très concrètes appliquées dans tous les domaines. Donc nos mécaniciens, nos électriciens, nos cuisiniers, ont tous des compétences techniques très faciles à replacer dans le civil auprès d'entreprises, soit du secteur naval, mais pas forcément du secteur naval. La mécanique, l'électricité, ça, ce sont des domaines assez faciles à remettre en valeur à l'extérieur. D'autant plus que d'une façon générale, la marine essaye de promouvoir l'acquisition de diplômes ou d'équivalents de diplômes civils au cours de la carrière, soit par des démarches de validation des compétences acquises, soit par des démarches de validation des acquis de l'expérience. Donc un marin qui conduit une carrière normale dans la marine, il peut normalement sortir de la marine à la fin de son temps de service avec un diplôme qu'il n'avait pas quand il y est rentré. Ce qui l'aide à se reconvertir du coup.
Au-delà, en plus de ces aspects vraiment techniques, j'imagine que humainement, ça doit être assez riche de vivre une carrière de marin et on apprend sûrement aussi beaucoup sur soi. Le fait d'être en mer longtemps avec un petit groupe de personnes, enfin petit, tout est relatif, mais dans cet environnement clos, fermé, sans réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on apprend le plus sur soi dans ces moments-là?
Oui, alors c'est sûr que le fait de partir en mer, c'est quand même une expérience particulière, surtout pour des durées importantes. Je ne sais pas vous dire exactement ce qu'on apprend sur soi, mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même mis à l'épreuve. Et donc, pour que la vie dans le groupe se passe bien, il faut que chacun apprenne à prendre sur lui, accepte à faire des compromis peut-être avec ses voisins. Et donc on apprend forcément on apprend la tolérance quoi, d'une certaine façon. On apprend aussi l'endurance parce que la vie à la mer c'est quand même relativement fatigant. Je pense que ça, soit ça révèle des qualités, soit ça aide à les développer. Et donc après effectivement c'est probablement des qualités qui sont utiles par ailleurs une fois qu'on quitte la marine éventuellement. Dans une deuxième carrière ou par ailleurs dans la vie de tous les jours.
Vous, en tant que commandant, en tant que pacha, donc un peu le père de famille à bord, quelque part, derrière ce que vous voyez peut-être comme ça, est-ce que vous attendez quoi de votre équipage?
Alors, père de famille, peut-être pas à ce point-là, même si par certains aspects, il y a un petit peu ça. Moi, ce que j'attends de mon équipage, c'est ce que je leur ai dit en tout cas, trois mots clés, de la rigueur. De la rigueur parce qu'un bâtiment de combat, c'est un concentré de risques. Donc d'abord, c'est un bateau et un bateau, intrinsèquement, c'est dangereux. On a des machines thermiques de partout, on a du gazole, on est en mer. Donc il peut se passer déjà plein de choses rien que de ce fait-là. Et ensuite, un bâtiment de combat, au-delà d'être un bateau, c'est plein de soutes à munitions. Ce sont des équipements radioélectriques avec des puissances importantes. Donc, ce sont plein de sources de risques intrinsèques déjà, sans même parler de l'éventuelle confrontation à l'adversaire. Donc, il faut beaucoup de rigueur dans la mise en œuvre de tout ça pour maîtriser les risques et être certain que déjà, rien que par notre propre comportement, on ne se met pas en danger inutilement. Ensuite, c'est de l'enthousiasme que je leur demande parce que ben on parle loin longtemps en équipage. Personne n'a dit que c'était facile, mais ce qui est certain c'est que si on fait pas preuve d'enthousiasme, ça va vite devenir très pénible pour tout le monde. Donc il faut que chacun prenne un peu sur lui, il faut que chacun s'astreigne à montrer le meilleur visage de lui-même aux autres, s'astreigne à être plutôt souriant que faire la gueule, parce que rien qu'en faisant ça, il va faciliter la vie de ses petits voisins plutôt que de la rendre encore plus difficile. Et puis la dernière qualité que je leur demande, c'est l'attention aux autres. On ne peut pas partir en mer durablement sans faire attention à son petit voisin. Donc chacun peut avoir des coups de mou, justement, comme j'ai évoqué avant. Et il faut y être attentif. Il faut essayer de se mettre au service de son voisin pour l'aider dans ses tâches de tous les jours, surtout quand il a des difficultés. Mais même quand il n'a pas de difficultés, il faut un petit peu se mettre au service de l'autre, faire attention à son voisin, s'assurer que tout va bien. Et si tout va pas bien, essayer de l'aider autant qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible.
Vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important qui est le fait que c'est pas anodin d'évoluer dans un navire de guerre avec des armes et dans un contexte en plus géopolitique de plus en plus tendu, hein, comme on peut le voir notamment en Méditerranée, dans le Pacifique et ailleurs. Est-ce que les gens que vous avez sous vos ordres ont conscience de ces dangers, de cette situation un peu explosive et comment ils appréhendent ça? Est-ce que vous ressentez un peu de peur peut-être, un peu d'appréhension?
Alors oui, je pense que les gens sont relativement conscients de ça. Maintenant, je dirais pas qu'ils ont peur. Je pense on va dire qu'ils sont soucieux. Globalement, les états-majors des bateaux sont soucieux de bien préparer les équipages aux scénarios qui paraissent à un instant donné les plus probables. Donc là, typiquement avec le déclenchement de la crise en Ukraine, la probabilité d'un affrontement naval est devenue un peu plus importante que ce qu'elle était avant. Et donc, les bâtiments de combat ont probablement tous, comme nous on l'a fait à bord, intensifié un peu l'entraînement en l'axant sur des scénarios qui paraissent plus probables qu'auparavant, de combats symétriques contre des bâtiments comparables, voire mieux armés pour certains. Je pense que les équipages sont conscients de cette situation qui peut dégénérer à tout instant. Mais d'une certaine façon, je pense aussi que les équipages réalisent bien que cette situation dégradée fait partie un petit peu des raisons pour lesquelles les gens s'engagent. Ils savent très bien qu'ils se sont engagés éventuellement un jour pour mener un combat naval. Donc ça donne peut-être un peu plus corps au risque que cela survienne, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement leur appréciation sur leur présence dans la marine ou sur leur engagement. Ça les rend simplement plus soucieux.
D'accord. Parce que c'est vrai que, vous l'avez dit, c'est une armée qui est jeune, hein, pas que dans la marine d'ailleurs, et cette génération et même la génération de leurs parents n'ont pas connu la guerre comme l'ont connu leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc c'est intéressant de savoir comment ça se passe à bord.
Oui, alors je pense qu'une des grosses difficultés qu'on a, mais tous, j'imagine en tout cas pour ce qui concerne la partie navale, c'est qu'effectivement, finalement, personne aujourd'hui n'a déjà eu à conduire un engagement naval à proprement parler symétrique. Donc même si on s'entraîne à ça aussi sérieusement qu'on peut, on découvrira probablement des choses le jour où ça arrivera. C'est inévitable parce que la technologie a beaucoup évolué. Même si on a essayé de tenir compte de tout le retour d'expérience qui a été accumulé au cours des dizaines d'années passées, mais même au-delà de ça, des siècles passés, il y a quand même des choses qui ont changé, face auxquelles on essaye d'anticiper, mais peut-être qu'il y aura des choses qu'on va découvrir le jour J. Ça, c'est pas impossible. Mais c'est pas grave, on est entraîné à improviser, donc on improvisera le jour J et on fera ce qu'on pourra avec ce qu'on a. Et puis voilà.
Oui, ce serait peut-être même plus effrayant de penser qu'on est prêt d'avoir des certitudes.
Ce serait peut-être plus dangereux encore de penser qu'on est prêt, oui. Il vaut mieux avoir un doute constructif et sans cesse réenvisager les scénarios d'affrontement, se reposer sans cesse, c'est ce qu'on fait à bord, comme sur tous les bateaux de la marine, se reposer sans cesse la question de savoir comment on réagirait dans telle ou telle circonstance, est-ce qu'on a bien réfléchi à ce qui se passera le jour où on perdra telle ou telle installation. Comment faire pour restaurer telle ou telle capacité si jamais elle tombe en panne ou si jamais elle est endommagée dans un impact. On est sans cesse en train de reconstruire et de réimaginer toutes ces choses-là sur les bateaux de combat. Et au-delà des conclusions qu'on tire, ce qui est important, c'est qu'on ait cette démarche permanente de remise en cause qui soit en place, ce qui nous garantit qu'on ne va pas s'endormir en pensant qu'on est prêt alors qu'on ne l'est peut-être pas. Et il faut sans cesse réexaminer la situation pour être le plus à même de réagir le jour J, avoir les bons réflexes, être capable de conduire des réflexions sur ces questions de disponibilité technique, être sans cesse en train de se poser des questions de tactique, de comment conduire une manœuvre, comment exploiter tout ce dont on peut effectivement disposer demain dans l'affrontement, au-delà des moyens propres du bateau, comment faire pour gagner la guerre avant la guerre en ayant bien réfléchi avant.
Ce podcast, il est écouté par des militaires qui sont nourris tous les jours à cet état d'esprit-là, d'être capable de penser aux cas non conformes, aux scénarios les plus critiques. Mais il est aussi écouté par des entrepreneurs qui tirent des enseignements de ça dans leur pratique, dans leur management, ou dans leur vision aussi à long terme. Il y a quelque chose sur lequel il y a une question à chaque fois que j'aime bien poser à des officiers supérieurs comme vous, c'est comment vous faites pour gérer le stress, gérer des situations qui sont vraiment complexes avec beaucoup de responsabilités.
Alors, je pense que pour le coup, le parcours professionnel des officiers les amène normalement à se forger une expérience qui leur permet justement d'apprendre à gérer le stress. Donc les officiers commencent par des responsabilités de conduite relativement simples à bord pour ce qui concerne les bâtiments de surface, mais c'est pareil pour les autres. Et donc, au travers des années et des années d'embarquement sur des bateaux divers et variés qui les confrontent à des situations plus ou moins compliquées, mais dans lesquelles, finalement, bah, ils sont chapeautés par leur commandant qui va leur donner les ordres et qui va conduire l'action comme il l'estime le mieux. Donc, il y a d'abord toute cette histoire-là, quoi. Il y a d'abord une histoire une histoire d'expérience, de confrontation, effectivement, à des situations dégradées dans le passé. Eh bien, qui permet d'abord, si possible, de conduire l'action en évitant de se mettre dans des situations justement trop dangereuses ou trop risquées, et puis surtout de peser le risque à son juste niveau quand on décide de le prendre. Donc il y a toute cette profondeur en fait qui est difficile à expliquer, mais qui est liée implicitement, intrinsèquement avec le parcours professionnel qu'on a eu avant. Et puis ensuite, c'est une question d'abord de réflexion personnelle, sans doute, et puis de personnalité. Je ne suis pas certain que tous les commandants soient forcément tous aussi calmes les uns que les autres ou plus stressés les uns que les autres. Enfin, c'est très personnel finalement cette affaire-là.
Vous, à titre personnel, comment faites pour garder votre calme?
Ben, je pense que c'est ce que je viens de vous dire. D'abord, il y a une question de personnalité. Ensuite, il y a probablement un trait culturel quand même, mais qui est vrai pour tous les marins. C'est pas spécifiquement militaire pour le coup. Je pense que si vous posez la question aux marins, d'une façon générale, ils vous disent que plus c'est la pagaille, plus il faut rester calme. Pour le coup, pour ce qui concerne les forces de surface, d'une façon générale, on met en œuvre des moyens qui sont lourds. Et donc, un bâtiment de combat comme celui-ci, qui déplace 4000 tonnes, c'est pas une Twingo. Donc, on lui fait pas changer de direction avec un coup de volant, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on construit, tout ce qu'on pilote, est construit avec beaucoup d'anticipation. On peut pas conduire des opérations navales. Dans l'improvisation la plus complète. C'est pas possible. Un bâtiment de combat, il n'est pas prêt au combat en 3 minutes. Un bâtiment de combat, il faut le préparer au combat. Ça prend un certain temps. Entre la situation dans laquelle on est maintenant et une situation dans laquelle le bâtiment et son équipage seraient parés au combat, il faut compter, on va dire, dans le meilleur des cas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Oui. Les ordres de grandeur, c'est quand même ça. Donc, vous voyez que toute l'action navale, elle est construite dans l'anticipation. On prépare beaucoup, on planifie beaucoup, on réfléchit beaucoup à ce qui va se passer, à ce qui peut se passer. Et donc, quand on arrive dans la conduite de l'action, on a déjà mentalisé tout ce qui peut éventuellement se passer et la réaction qu'on va avoir. Donc ça permet finalement d'être assez calme puisqu'on a bien préparé notre affaire et on a déjà les plans B, les plans C, les plans D. Voilà. Après, il reste toujours l'impondérable, mais entre guillemets, il reste que l'impondérable. Donc, ça permet d'aborder tout ça avec plus de calme et de sérénité que si on y allait complètement à l'impro.
J'imagine que le fait de driller, de répéter beaucoup de fois des procédures vous permet d'économiser du temps, d'espace disponible dans votre cerveau pour avoir des actes réflexes et,
Oui, ça c'est très clair. Et pour le coup, on le voit. Alors, on pourrait se dire qu'on le voit pas forcément dans des situations réelles, mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier danger à bord, c'est le feu. Et pour le coup, des scénarios dans lesquels on craint un départ de feu, ça nous arrive. Il peut très bien y avoir, alors le cas le plus simple, ce serait par exemple un détecteur incendie défectueux qui se déclencherait alors qu'il ne se passe rien, mais vous pouvez aussi avoir des installations qui sont défectueuses avec des petits dégagements de fumée, vous pouvez avoir des problèmes en machine avec des situations qui pourraient dégénérer en départ de feu. Donc on est confronté de temps en temps à des vraies situations de risque incendie. Et donc, ce qu'on constate sur les bateaux, c'est que la performance des équipes chargées de la lutte contre l'incendie est infiniment meilleure quand l'alarme est réelle que quand on déclenche une alarme simulée dont tout le monde sait que c'est un exercice. Et là, dans ces situations-là, vous voyez tout de suite que même si le reste du temps, les gens sont parfois moins motivés pour conduire l'exercice de lutte contre l'incendie parce que c'est le dixième de la semaine et il y a forcément parfois une forme de lassitude qui peut s'installer. Mais autant quand c'est une véritable alarme, vous voyez tout de suite la performance qui se révèle en fait. Et vous voyez que ce qui prend normalement 4 minutes n'en prend plus que 2. Et tout ça, c'est le résultat du drill. Très clairement, c'est parce que les gens font et refont sans cesse des gestes techniques, plus ou moins les mêmes, dans des conditions qu'on fait varier de temps en temps, enfin, qu'on essaye de rendre les plus diverses possibles. Et c'est parce qu'ils répètent ces gestes-là que le jour où c'est le vrai geste qu'il faut accomplir, ils sont encore meilleurs. Donc ça, c'est un exemple qu'on voit parce qu'il nous arrive d'avoir des interventions de sécurité réelles. Mais de la même façon, dans le reste des domaines d'emploi, quand la situation de crise est réelle, on voit tout de suite que les gens réagissent beaucoup plus vite, qu'ils ont les bons réflexes parce qu'on les a entraînés sans cesse à reproduire les gestes techniques, à driller, et que du coup, tout ça devient pas tout à fait du réflexe, mais pas loin.
Il y a quelque chose qui reste compliqué, c'est l'éloignement aussi entre l'équipage et leur famille. Vous-même aussi, vous êtes loin de votre famille, vous ne pouvez pas forcément communiquer avec eux quand vous le souhaitez. Comment ça se gère ça au quotidien ?
Alors là, je pense que c'est un équilibre personnel qui dépend de chacun, qui dépend aussi de la famille à terre. Sachant quand même sur les bateaux, aujourd'hui les gros bateaux, mais... enfin même pas que les gros bateaux, on a quand même beaucoup de moyens de communication qu'on n'avait pas encore il y a quelques années. Donc là, à bord du Courbet par exemple, on peut envoyer des mails à peu près quand on veut à la maison, on peut téléphoner à peu près quand on veut à la maison, on a internet, donc on n'est quand même pas si coupé du monde que ça. Moi quand j'ai commencé ma marine, il n'y avait pas le téléphone à bord pour téléphoner à terre. Et il n'y avait pas facilement de moyen d'envoyer des mails. Donc on n'était pas encore du tout dans le même équilibre. Donc ensuite, écoutez, ça se gère avec la famille en fonction des besoins des uns et des autres. Sachant que les bateaux font quand même par ailleurs des escales de temps en temps, ne serait-ce que pour leurs besoins logistiques. Par exemple, il faut bien faire le plein en carburant de temps en temps, récupérer des vivres. Et donc ça, ce sont des occasions privilégiées aussi pour les marins pour reprendre contact via les réseaux terrestres avec leur famille pour renouer du lien, voilà.
Est-ce que ces nouveaux moyens de communication qui n'existaient pas quand vous avez commencé ont changé quelque chose dans la façon de travailler des marins ?
Alors, peut-être pas dans leur façon de travailler, mais paradoxalement, je pense que le rapport avec l'éloignement a changé et d'une certaine façon, paradoxalement, le marin supporte peut-être de moins en moins d'être déconnecté. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait aucun moyen de communication à bord du bateau et que tout le monde le savait, lorsque le marin partait en mer, il était déconnecté et c'était comme ça et pas autrement. Il n'y avait absolument aucune raison d'espérer avoir de contact. Chacun le savait, à bord comme à terre. Et donc l'absence faisait partie vraiment intégrante du boulot. Aujourd'hui, les marins sur les bateaux, ils ont accès au téléphone, à Internet. Donc en fait, ils peuvent avoir leur famille au téléphone tous les jours s'ils le veulent. Et donc paradoxalement, quand les circonstances nécessitent de couper ces liaisons ou que simplement les avaries entraînent la coupure momentanée de ces liaisons, pour le coup, cette coupure de liaison devient plus difficile à vivre à bord comme à terre. Et donc voilà, l'équilibre a changé. L'équilibre a changé. Je ne sais pas si c'est en mieux ou en moins bien, mais ce qui est sûr, c'est que l'équilibre a changé.
Il y a peut-être un biais psychologique d'aversion à la perte, d'être capable de redouter plus.
Ouais. Comme on est connecté plus souvent, ben, l'aversion à la perte est peut-être plus forte en fait.
C'est intéressant. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner à de futurs officiers, des gens qui sont peut-être en cours à l'école navale, qui sont actuellement sur le Mistral et ici, ou des gens qui aimeraient embrasser cette carrière? Quels sont les conseils que vous aimeriez leur donner?
Alors pour ceux qui ont déjà embrassé la carrière, je pense qu'il faut qu'ils soient conscients, encore plus qu'avant, de l'exigence qui va peser sur leurs épaules. Et donc du travail important qu'il va falloir fournir pour se préparer à titre individuel et collectif, mais déjà à titre individuel, aux circonstances dans lesquelles ils vont devoir opérer demain. Très clairement, jusqu'à il y a quelques années encore, l'hypothèse d'un affrontement symétrique en mer, elle n'était pas évacuée, mais elle paraissait peu probable. Ça a changé. Donc, autant on se préparait à l'affrontement symétrique, autant il paraissait peu probable. On continue à s'y préparer, mais maintenant il devient de plus en plus probable. Et donc, il faut bien que chacun ait conscience du niveau d'exigence qui va peser sur ses épaules dans les années qui viennent, là, notamment pour les jeunes officiers qui seront aux commandes sur les bâtiments de combat très prochainement et qui seront peut-être pour certains aux premières loges si jamais ça tourne mal et que ça se termine avec la mise en œuvre des armes. Avec toujours cette conscience du fait, à mon avis, qu'on va être surpris. C'est-à-dire que malgré toute la préparation qu'on met en œuvre, malgré tous les efforts qu'on fait pour ne pas être surpris, la guerre, c'est quand même la guerre, quoi. C'est quand même l'imprévisibilité par excellence, quoi. Donc il faut qu'ils se préparent à être surpris. Mais pour se préparer à être surpris, il faut qu'ils aient beaucoup travaillé avant pour minimiser la marge de surprise. Sinon c'est suicidaire. Voilà. Et ensuite, pour ceux qui envisageraient de s'engager, je dirais que c'est une bonne idée. Je dirais que l'activité militaire, on va dire, d'une façon générale, c'est une activité qui, moi, me plaît. Me préparer justement à ce caractère imprévisible, je trouve que c'est passionnant. Et puis ensuite, c'est un peu l'aventure quand même si c'est pas la guerre aujourd'hui, c'est quand même l'aventure. Pour le coup, s'agissant de la marine, le milieu maritime, c'est en lui-même un imprévu permanent. C'est pas anodin quand même de partir en mer, de parcourir des milliers de nautiques au milieu de nulle part, à bord d'un bateau, aussi gros soit-il. Il y a des bateaux très gros qui ont des gros problèmes en mer, donc c'est pas du tout anodin, donc c'est quand même l'aventure même dans le quotidien. Donc je pense qu'il y a plein de choses à en tirer à titre personnel dans sa construction individuelle, et puis ensuite c'est utile en service, donc je pense que c'est une bonne carrière.
Est-ce que la marine c'est pas quelque part un peu le corps d'armée, enfin l'armée là, où on s'engage le plus pour une notion d'aventure dans le type de mission qu'on va avoir, la dimension de voyage qui est peut-être plus présente que dans l'armée de terre ou même dans l'aviation?
Je sais pas, parce que la nature de l'aventure est peut-être différente, mais je pense pas que les autres armées aient moins d'aventuriers que nous. Ils sont peut-être juste différents. Je suis pas certain que nos camarades de l'armée de terre qui partent en opération dans la bande sahélo-saharienne ne se sentent pas aventuriers aussi, quelque part. Quand vous partez faire un stage dans la jungle équatoriale de Guyane pour apprendre à survivre là-bas, c'est un peu l'aventure aussi quand même, je pense. Par certains aspects, beaucoup plus que de monter sur un bâtiment de combat. Et puis, nous, côté aviateur, c'est quand même pareil. D'abord, ils ont des détachements en OPEX à l'autre bout du monde. Je suis sûr que certains pourraient vous raconter des vols mémorables avec des problèmes techniques qui leur ont bien fait toucher du doigt le caractère aventureux de cette affaire. Donc, je pense que la nature de l'aventure est différente, mais c'est pas plus ou moins aventurier d'un côté ou de l'autre.
Est-ce que l'aventure peut être compatible avec la discipline et la rigueur militaire?
Oui, c'est même probablement une nécessité. Ce serait parfaitement non professionnel que de partir à l'aventure sur un bâtiment de guerre si on n'était pas rigoureux et discipliné. Il faut être rigoureux et discipliné pour que ça se passe bien. La rigueur et la discipline permettent de minimiser la probabilité d'occurrence des avaries, des accidents, permettent d'aborder le risque du milieu dans lequel on évolue, quel qu'il soit, de façon objective, en appliquant de la méthode, en pesant bien les patates, et donc en s'engageant dans l'aventure, en sachant à quoi s'en tenir.
Ben merci beaucoup pour cet échange et tous ces conseils très intéressants.
Très bien, de rien, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisées sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.